Vous écoutez TSF Jazz, la seule radio 100% jazz.
Avec un extrait de cette suite Mangrove, Olivier Huttman et son quartet avec Jacques Schwartzbart, saxophone, Salvatore Larocca, Sal Larocca et Hans Van Oosterhout à la batterie. Voilà pour ouvrir cette émission autour du piano avec vous, avec toi Olivier, ça va bien ?
Très bien.
Le piano, je sais qu'on t'a laissé une petite demi-heure enfermé dans le studio pour le tester.
Écoute, c'est le même que chez moi donc...
C'est vrai ?
Oui. Meilleur état.
D'accord, mais il est tout neuf le nôtre.
Ouais.
Peut-être qu'il sonne un peu moins, bien. Le tien doit sonner un peu
le
mieux.
Le mien sonne très bien.
Ouais.
Juste, c'est une parenthèse d'ailleurs pour dire que le piano que j'ai chez moi m'a été vendu par Bernard Maury. Donc je sais que ça intéresse beaucoup de gens qui savent que Bernard Maury était un grand pianiste de jazz français, un grand pédagogue et aussi une espèce de référence pour tout le monde.
Et une référence autour de Bill Evans, qui était son mentor, son dieu, son idole, voilà. Est-ce qu'il sonne, j'imagine que quand tu le joues, ça doit résonner forcément. Cette histoire, tu y penses à chaque fois quand tu, il y a un rapport. Est-ce qu'il y a le même rapport chez les pianistes que les instrumentistes à, avec leur instrument, avec leur saxophone, avec leur sax, avec leur guitare, avec leur trompette? Est-ce que c'est le même genre de rapport?
Écoute, moi je dirais, je peux parler que pour moi, hein, ouais, mais bah je sais que bon, évidemment, tu as des gens qui sont complètement maniaques. On donne tout souvent l'exemple de Walter Giskin qui se baladait toujours avec son piano, qui faisait le tour du monde avec son piano. Enfin, c'était pas pianiste de jazz, mais... Néanmoins, c'est comparable. Tu as des pianistes de jazz qui systématiquement se font livrer le même Steinway à chaque
avec
concert.
Avec le numéro de série qui va bien. Ouais.
Moi, honnêtement, je ne suis pas comme ça. D'ailleurs, parce que je ne me considère pas non plus comme quelqu'un de... Enfin, je ne suis pas hyper exigeant sur la qualité des pianos. Par contre, je suis hyper exigeant sur la qualité des musiciens avec lesquels je joue.
Ce qui n'est pas tout à fait pareil.
Oui. Ouais. Mais à partir du moment où un piano sonne bien et que l'organisateur ou l'endroit ne se moque pas du monde, bah écoute, tout me va.
Tout roule.
Voilà.
Olivier Hitman, t'es né en 1954.
Oui,
c'est
hélas.
Ça. À Paris?
Oui. Oui, à Boulogne-Billancourt.
À Boulogne-Billancourt, à la clinique du Belvédère?
Exactement.
Et ben voilà, voilà une chose que nous avons en commun, cher ami.
Écoute, alors bravo, on est nombreux. Faire une bise, hors antenne.
On est nombreux. On est là. Clinique du Belvédère à Boulogne-Billancourt.
Rémi Collet.
Ouais, exactement. Ben pareil, c'est le même.
Et ben bravo,
voilà. C'est marrant. C'est génial. Et c'est pareil pour Rémi Kolpakopoul, qui est aussi né là-bas, avec accouché par sa maman était accouchée par le professeur Velay, quoi. Comme quoi.
Hein. Oui. Comme quoi,
voilà. C'était quoi le piano que tu avais à la maison? Est-ce que tu as un souvenir de la première
sûr.
Fois que t'es monté, tu l'as touché, c'était quoi?
Écoute, c'était un piano que ma mère jouait, car ma mère était pianiste amateur, mais passionnée. Enfin, c'est ma mère qui nous a vraiment poussé, mon frère et moi, parce que je dis mon frère dans le même temps que moi, tous les deux à faire du piano. Lui n'est pas pianiste professionnel.
Mais il continue à jouer.
Il en joue avec des collègues et avocats. Et pour ma part, je me souviens que c'était un piano qui avait ceci de particulier, que le clavier pouvait basculer à l'intérieur du piano. Ça, je ne sais pas si tu as déjà vu des pianos comme ça. C'était un piano anglais, j'ai oublié le nom, j'ai oublié la marque.
Il avait toutes ses octaves, il avait toutes les touches.
Il était parfait, il avait d'ailleurs un très beau son, et on ouvrait le capot et on faisait basculer le piano à l'intérieur, ce qui fait que ça avait l'air d'une commode quand le piano... Mais bon, je dois dire qu'on était dans une famille de grands amateurs d'art, donc on rentrait jamais le clavier à l'intérieur.
Ouais, il était toujours sorti.
Voilà. Voilà.
Ton père jouait aussi?
Non, mon père pas du tout, mon père était quelqu'un qui était très pragmatique et qui s'intéressait à très peu aux choses artistiques, mais qui regardait ça avec un certain amusement. Et puis, de toute façon, comme il était amoureux de ma mère, il ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'on fasse de la musique. Il ne se posait pas de questions. Ouais.
La première fois que tu as joué du piano, c'était quoi, 5 ans?
Bah écoute, j'ai commencé le piano à 5 ans, évidemment je me souviens pas de ce que je jouais, comme tout le monde ça va, tu veux que je te joue comme quelqu'un qui a 5 ans?
Ouais, je veux bien que tu
je jouais. Etc, etc. Je dois dire que maintenant le passage est... Ça y est, nous avons passé le moment difficile de l'émission.
Voilà, exactement.
Non, mais sérieusement, ça me permet juste de te dire un truc, c'est que je sais que beaucoup de mes collègues pratiquent le classique et qu'ils... moi, je préfère le vénérer et l'écouter. J'en écoute beaucoup.
Plutôt que le jouer?
Plutôt que le jouer, parce que je trouve ça... pour ma part, j'ai pas le temps de tout faire.
Non, mais t'as fait ça pendant près de 10 ans quand même.
Oui, j'en ai fait pendant près de 10 ans, mais j'ai fait aussi du latin pendant de longues années, il m'en reste rien. Donc ce qui me reste de ce que j'ai fait de 10 ans de piano, c'est cette sensation que quand je me mets sur un piano, je peux jouer les yeux fermés. Ouais. Cette espèce de truc tactile qui fait que c'est quelque chose de familier dans n'importe quel contexte, les touches d'un clavier. Que ça soit un piano, un orgue,
un clavier
en général. Ouais. Mais je n'ai pas du tout ce rapport à l'instrument technique. Ouais. Voilà.
T'as jamais voulu l'avoir, en fait?
Parce que
tu ne destinais pas à être pianiste professionnel?
Non, pas du tout. En fait, c'était aussi pour des raisons familiales. Je venais d'une famille où il aurait été très mal vu qu'il y ait un musicien professionnel dans la famille. Il fallait un métier sérieux. Enfin, même si ma mère secrètement rêvait un peu de ça, puis après était bien contente. Mais pour mon père, c'était absolument impensable.
Qu'est-ce que faisait ton papa ?
Mon père était tailleur.
Ouais.
Enfin, il était là, mais il était tailleur. Et c'était... je viens d'une famille qui a été très marquée par la Shoah. Et donc mon père, au lendemain de la guerre, n'a pas eu de possibilité de faire ce qu'il voulait. Il aurait voulu être avocat. Et il était passionné de politique, il a beaucoup milité, et donc c'est un petit peu ce terreau dans lequel j'ai évolué. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est une des raisons qui m'ont poussé aussi vers le jazz. C'est cette espèce de sensibilité particulière dans la famille pour tout ce qui était minorité, opprimé. Je me suis senti...
proche de cette musique et de cet univers et de cette sensibilité politique, on va dire.
Exactement, exactement.
Il y avait une sur Jazz Magazine il y a quelques années qui disait: est-ce que le jazz est de gauche? C'est même pas la question, le jazz est forcément engagé, c'est comme ça que tu le sentais?
Ah, complètement. Ouais. Oui, complètement, mais en même temps il y avait des choses qui me choquaient, si tu veux, c'est pas que je... Enfin, je me sentais complètement, comment dirais-je, je me sentais un rapport fraternel à ce truc-là, parce que j'ai évolué aussi dans une époque où... les années 60 et 70, où on était à fond là-dedans, on allait écouter Mingus qui faisait des quasi-discours politiques sur scène. Et puis en même temps, ce qui me choquait, c'est qu'au même concert, on entendait Anita O'Day accompagnée par le trio de George Arvanitas et qu'elle se faisait siffler. Et j'ai jamais aimé l'excès dans un domaine.
Dans un sens ou dans l'autre.
Oui, non, je... Enfin, si, l'excès de bonne musique, ça j'aime, oui. Mais non, j'ai beaucoup de liens avec tout ça, mais pas mal de distance maintenant.
On va forcément digresser, parce que là j'ai envie de te parler de quelqu'un qui est très important, qui est important pour cette maison. Tu vas comprendre pourquoi.
Okay.
Puisqu'on a été fondé par un certain Jean-François Bizot, qui était très proche de monsieur dont je veux parler. Tu vas sûrement le deviner, parce que tu n'as pas fait des études de musique, tu as fait des études d'ethnologie.
Exact.
Mais j'aimerais que tu nous joues ton premier contact avec le jazz. C'était quoi?
Alors écoute, mon premier contact avec le jazz... Alors tu as envie encore de rigoler, Sébastien?
J'adore rigoler.
Mon premier contact avec le jazz... mon premier contact, c'est pas ce que j'ai joué, parce que j'en aurais été incapable. Mon premier contact, c'était We Get a Request de Oscar Peterson, où je me suis dit, c'est monstrueux, ça swing, c'est exactement ce que je veux faire, c'est ce que j'aime. C'est ça, c'est mon destin. Même si je le savais pas vraiment, quoi, parce que après j'ai fait des études, comme tu dis. Donc j'ai commencé à m'acheter des bouquins.
Mais je suis bien rassuré un peu. Voilà. La famille.
Oui, 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 très inquiet. Et puis, c'est pas du tout rassurant, oui. Et le premier truc que j'ai joué, c'était. Etc. C'est un boogie-woogie attribué à Ray Charles. Je sais pas du tout si c'est
vraiment
si c'est
Ray Charles aussi.
Mais
c'est un boogie,
cas,
par contre, c'est
sûr. C'est le premier truc. Ou bien des choses comme... d'essayer de m'essayer à faire des traits de à partir de thèmes comme Parker's Mood ou des trucs comme ça. Mais d'essayer de faire des traits bluesy.
C'était Ray Charles, c'était, on va dire, la référence au piano.
C'était pas la référence au piano, mais c'était tellement emblématique de la musique noire et de ce qui m'attirait dans le jazz que c'était... J'avais un oncle qui écoutait Ray Charles et on regardait ça un peu comme un truc complètement surréaliste, parce que chez moi il y avait des disques de Zigan et Schumacher ou de la musique classique. Zigan et Schumacher, c'est des comiques yiddish. Ouais. Ou de la musique classique, mais il n'y avait pas de jazz. Mon père m'a avoué plus tard qu'il avait écouté Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, et le premier concert auquel je suis allé en France, c'était un concert de Stéphane Grappelli, et là j'ai eu la bénédiction de mes parents, parce que ça rappelait mon père à de bons souvenirs. Et c'est mon prof de maths qui m'a emmené.
Pour voir Stéphane Grappelli.
Oui, voilà.
La personne dont je voulais te parler, c'est Jean Rouch.
Ah oui.
Qui est la personne avec qui tu as fait ton doctorat.
Oui.
D'ethnologie.
Oui.
D'ethnomusicologie, très exactement.
Oui.
Quand je dis que c'est une personne importante, parce que c'est une personne qui a compté dans la formation de beaucoup de gens, notamment de Jean-François Bizot, qui a fondé TSF, qui a fondé Actuel, qui a fondé Nova. C'est une personne qui est importante dans la formation intellectuelle d'une génération, j'ai l'impression, de la génération de la fin des années 50, où on a commencé à considérer... les peuples qui sortaient de la colonisation d'une façon différente, avec peut-être plus de respect et plus de curiosité. Je me trompe, Olivier Huttman?
Non, je pense que tu ne te trompes pas, Sébastien. Mais moi, je regarde aussi ça avec une certaine circonspection maintenant. Évidemment pas un type comme Jean Rouch, dont la rigueur intellectuelle est absolument indiscutable. Ni même, ni surtout quelqu'un comme Lévi-Strauss qui a carrément établi les règles d'analyse dans les mouvements dans lesquels moi j'ai évolué. Mais juste pour te donner un exemple de la raison pour laquelle je regarde ça avec circonspection, c'est que pendant que je faisais des études d'ethno, j'étais aussi à l'école pratique des hautes études avec une enseignante qui s'appelait Claudie Marcel Dubois, un nom très vénéré de l'ethnomusicologie française, qui était connue parce qu'elle avait fait un mémoire sur la musique des marins de l'île de Ba, donc un sujet qui passionne la terre entière.
Qui fait trembler la terre entière. Ouais.
Et je lui ai dit que je voulais partir au Ghana pour faire ma thèse sur. Parce que c'est elle qui. Enfin, c'est pas elle qui dirigeait ma thèse, puisque c'était Rouge, mais c'était elle qui chapeautait à l'école pratique des hautes études. Enfin, bref, patati, patalère.
Et t'as fait un doctorat sur la musique au Ghana.
Sur la musique urbaine au Ghana. Mmh. Et donc, je suis allé voir cette dame et je lui ai dit voilà, on va partir avec un copain, on va faire un film, on va faire notre thèse ensemble sur la musique urbaine au Ghana. Elle m'a regardé comme si j'étais un martien. Et là, j'ai compris que je rentrais dans le domaine un petit peu des prérogatives particulières de toutes ces chapelles qu'il y a dans le domaine de l'université. Pour elle, elle m'a fait comprendre qu'à partir du moment où la musique commençait à s'acculturer, c'est-à-dire à être au contact d'autres musiques, ça ne l'intéressait plus. Donc c'est une... Bon, sans faire de grands discours philosophiques, mais c'est la raison pour laquelle, dans le milieu de l'université, moi j'ai eu envie de quitter ce milieu-là, parce que je me suis aperçu qu'il y avait une énorme intolérance par rapport à l'évolution, par rapport à ce qui, moi, m'intéresse justement dans le jazz, c'est que c'est une musique qui évolue, en tout cas qui a longuement évolué d'une manière hyperbolique, un peu, mais enfin, même si maintenant on peut discuter de son évolution. Mais dans l'ethno, je me suis trouvé face à des gens qui ne voulaient pas que ça évolue, qui voulaient s'intéresser qu'à la musique traditionnelle, comme si ça
la
devait rester
traditionnelle, voilà, ça ne bougeait pas, c'était au contact. Exactement. De rien du tout. Ce qui n'était pas du tout le cas de ce que tu as rencontré au Ghana ou
Au Ghana, moi, je me suis retrouvé à écouter des groupes. C'était en 74 que j'ai fait ma thèse. Donc, non, attends, je fais des bêtises. 78. Tout d'un coup j'ai un doute. Oui, 78, ouais, c'est ça. Donc je me suis retrouvé à écouter des groupes qui étaient influencés par Bob Marley, par George Benson, par des gens comme ça, puisque la culture américaine était déjà la musique américaine était largement diffusée là-bas, comme le Coca-Cola, quoi. Donc les musiciens n'avaient pas envie de se vautrer complaisamment dans du néo traditionnel qui avait fini d'exister. Ouais. Et c'est ça précisément qui me passionnait. Et j'ai fait ma thèse là-dessus. Et d'ailleurs, ça n'a pas intéressé grand monde à l'époque. Mais bon, il fallait faire quelque chose. En tout cas, c'était un sujet, moi, qui m'a intéressé.
Qu'est-ce que tu jouais comme musique à cette époque-là ?
Alors, qu'est-ce que je jouais comme musique à cette époque-là ? J'avais commencé à jouer dans des groupes... moi, j'ai un parcours un peu...
Tu veux pas nous jouer un peu un morceau de cette époque-là ?
Si, si. Je parle beaucoup.
Non, pas du tout. Je bois tes paroles, mon cher.
Je jouais dans des groupes de la musique néo-hardbop.
Ouais.
Tu vois, donc qu'est-ce que je jouais comme musique à cette époque-là ? Je jouais par exemple... Shorter, one by one.
Voilà. Ça, c'était la musique les groupes dans lesquels tu traînais, ouais. les choses que tu faisais à cette époque-là, quoi.
Moi, quand j'ai commencé à jouer dans des groupes de jazz, c'était à Paris, et c'était au contact de gens, donc les gens de ma génération, c'était les Jean Bardi, Eric Dervieux, j'en passe et des meilleurs, et plein de gens que j'oublie, et Eric Lelanne qui est venu un peu plus tard, mais enfin, un ou deux ans après, enfin, on a commencé par jouer des trucs comme ça, on jouait... tous ces thèmes hard bop, et ça me convenait très bien parce que c'est finalement maintenant, quand je regarde cette musique-là, je la regarde avec autant d'amour qu'à l'époque.
Ouais. Quand on regarde ton parcours, Olivier Huttman, on est assez étonné par l'ouverture musicale dont tu as pu faire preuve au fil de tes aventures, parce qu'effectivement à cette époque-là, tu jouais avec le quartet d'Eric Lelanne. puis juste après, tu joues avec Christian Escoudé, si je ne m'abuse.
Même avant, non, c'était avant.
C'était avant déjà. Christian, voilà. Donc Christian, plutôt, on va dire, un jazz...
Fusion.
Ouais, ah, c'était fusion. Il jouait fusion à l'époque. Ah, moi, je me l'imagine à l'américaine, guitare, joli avec des standards.
Non, il jouait fusion. On jouait fusion à mort. Et
peut-être
en plus,
parce que toi, t'as sauté à deux pieds dans la fusion avec ensuite un groupe qui s'est appelé Chute Libre, qui était...
Exactement.
Qui était, on va dire, l'icône, un des groupes iconiques de cette période. On parle beaucoup de troc en ce moment, et Magma, etc. Mais Chute Libre, c'était vraiment...
D'ailleurs, je pense
avec les frères Sinélu.
Ça serait bien que ça soit réédité, ce truc-là. Il y a des gens qui nous approchent, des fois, puis ça se fait jamais. Donc, s'il y a quelqu'un que ça intéresse, appelez-moi.
Qui c'est qui sortait ? Qui c'est qui avait édité les...
C'était EMI, Pathé Marconi. Ouais. On avait fait deux disques, et c'était un groupe... oui, pour moi, c'était le groupe formateur dans lequel j'ai évolué. J'ai fait une saison dans un village vacances genre Club Med, et j'ai rencontré un guitariste qui s'appelle Patrice Sinélu. Il m'a dit si ça t'intéresse,
qui est le frère de Mino, qui a joué ensuite avec Miles Davis, qui est percussionniste, ouais.
Et Miles Weather et tout ce qu'on veut. Et il m'a dit voilà, on cherche un pianiste. Il y avait Benoît Wiedemann dans ce groupe là au tout début, et puis il est rentré dans Magma, et donc ils n'avaient plus de pianiste, et donc je suis rentré dans ce groupe là et puis c'est là que tout a commencé, franchement, pour moi. Et il y a un truc que je dis souvent quand on me pose la question, et notamment quand je fais des interventions, je vais souvent à l'école de Didier Lecoune, où j'aime beaucoup aller, puis je fais des trucs comme ça de temps en temps. Je dis, c'est là qu'on m'a appris un truc qui est essentiel pour moi. C'est un peu comme le Graal, quoi, de la musique. Pour que ça swing, oubliez le premier temps. Et je sais qu'avec les frères Sinélu, ça a été une révélation. On faisait tourner des trucs, mais pendant 3-4 heures d'affilée, d'ailleurs éventuellement avec l'aide de... Enfin bon, les auditeurs avertis m'ont compris.
Hein. Ok, vous aviez les yeux rouges, quoi.
On faisait tourner des grooves pendant 4 heures d'affilée, et puis on s'entraînait à jamais placer quoi que ce soit sur le premier temps. Sinon, il y avait Mino qui me regardait de travers et qui me... c'était un désaveu total. Ouais. Ça a été pour moi hyper formateur, parce que finalement, je m'aperçois maintenant, et après j'ai eu ce même type de rapport avec Tony Rabeson, qui est un batteur qui a beaucoup compté pour moi. Donc les gens qui viennent d'ailleurs, j'ai compris que pour que la musique swing, enfin, j'ai compris que c'est ça qui m'attirait le plus dans cette musique-là. C'était pas de la technique, c'était pas le génie harmonique, c'était le swing, c'était ça qui me fascinait le plus. Et c'est pour ça que j'aimais tout de suite à travers Peterson ou des gens comme ça.
Est-ce que tu te rappellerais un morceau de Chute Libre ?
Franchement pas, non. Franchement pas. Mais non, franchement pas.
La question piège.
Non, c'était il y a quand même... C'était 76, 77.
Ouais, il y a 35 ans, quoi.
Ouais. Ouais. Mmh.
Ça commence à faire
oui,
un
oui,
petit peu.
Oui, oui.
Un morceau que tu composais, de la musique que tu écrivais à cette époque-là déjà ou pas ?
Oh, j'ai écrit plus tard, en fait. Je faisais des ersatz de composition qui étaient un peu des collages, quoi. Ouais. C'est-à-dire que j'essayais d'aller chercher des influences à droite à gauche, mais je pense que j'étais pas encore quelqu'un qui composait vraiment.
À cette époque-là, il y a aussi deux personnes qui comptent, j'ai l'impression, c'est Luigi Trussardi et Philippe Combel.
Alors,
avec qui
ouais,
tu fais un trio qui a écumé le banc et l'arrière-banc des clubs de Saint-Germain-des-Prés.
Non, pas du tout une bêtise. Avant ça, il y a eu Lolo Bellonzi, ouais, que j'ai rencontré avec Chute Libre et qui m'a fait jouer dans son groupe. Puis à travers Lolo, j'ai connu Luigi. Puis un jour, je suis arrivé au Bill Bocquet, dans les années 80.
Feu Bill Bocquet, qui était une brasserie horrible.
Voilà, et puis moi j'étais dans une période où je faisais que de la variété, j'accompagnais des chanteurs, j'avais longuement travaillé avec des tas de gens, et puis j'avais terminé en beauté
On veut les noms.
Ah non, les noms. Je dirais que, de bons souvenirs, j'ai terminé en beauté avec Henri Salvador et son big band, avec Eddie Louis à l'orgue, Maurice Vendée en piano, et moi j'étais au clavier. Donc,
ok, ouais, yeah,
pire,
cool, d'accord. Hein,
et je suis arrivé, donc j'étais un peu en bout de course avec la musique de variété. J'en avais marre, je gagnais bien ma vie, même très bien, puis je me disais, j'ai aucun mépris là-dessus, pour ça, je crache pas dans la soupe. Mais c'est pas ça que je voulais faire, jouer tous les soirs la même chose. Et je le dis très modestement d'ailleurs, j'avais envie de faire autre chose. Et puis il s'est présenté cette opportunité, un jour je suis allé jouer avec un saxophoniste qui s'appelle Jean-Pierre de Barba, dans le groupe duquel je jouais, on est allé jouer au Bill Bocquet, puis la rythmique c'était Luigi Trussardi et Philippe Combel. Et ils avaient un petit problème avec leur pianiste à l'époque, et puis de fil en aiguille, je suis devenu le pianiste attitré du Bill Bocquet pendant de longues années.
combien de temps?
Je dirais jusqu'à ce que la villa commence, et là je suis devenu, je suis passé de l'autre côté, je suis passé à l'ennemi.
Ils faisaient la tête, les gens du Bilboquet, que tu partes à côté ou,
Ça avait déjà changé de direction, donc s'en foutait un peu. Il n'y avait plus l'âme de Guy Monnet, qui était un grand allumé, qui tenait cette boîte à l'époque où il y avait vraiment... Il faisait venir tous les gens qu'on lui disait, on lui disait « Ça serait bien que tu fasses venir Jérôme Richardson, ou ça serait bien que tu fasses venir Jerry Dodgson ou Mundello, des types complètement inconnus mais géniaux avec qui on avait envie de jouer. »
Envie de jouer.
Et puis lui, le gars, il le faisait, d'accord, si tu me dis que c'est bien, d'accord. Ouais. Okay.
Et puis il faut préciser aussi à chers amis auditeurs qui nous écoutent que ça faisait partie de ces clubs qui programmaient quoi, combien de jours d'affilée, 15 jours,
3 semaines parfois. Bilboquet, c'était 15 jours parfois, c'était une semaine minimum, et c'est comme ça qu'ont commencé les frères Belmondo. Ils venaient jouer avec nous, ou Hervé Méchinet, ou des gens comme ça. Ah ouais, c'était... Bon, j'ai aucune nostalgie, hein, mais c'était un truc qu'on retrouvera plus jamais.
Pourquoi?
Est-ce que tu penses, en plus tu es bien placé pour en parler, est-ce que tu penses que maintenant un club dans l'économie actuelle peut faire jouer les mêmes musiciens pendant une semaine comme la Villa et le Bilboquet l'ont fait?
Perso, je pense que c'est possible si la proposition elle est au-delà du jazz, c'est-à-dire que si l'endroit il est comme le Bilboquet, était à la fois un restaurant, à la fois un endroit de nuit, à la fois un endroit où on vient boire un coup, à la fois qui est au-delà de, et puis il y avait une émulation aussi dans ces trucs qui était incroyable parce que bon, quand même on démarrait la rue aux Latitudes, ensuite il y avait le Bilboquet en face, il y avait
le Montana.
Enfin, je veux
dire, il y avait le Village de l'autre côté.
Donc il y avait d'un coup dans un espèce de pâté de maison 3-4 clubs avec à la fois des super programmations, des super rythmiques, des super pianistes, une émulation. Je pense qu'il y a ça aussi qui est malheureusement un peu disparu, qui manque.
On peut le déplorer, mais maintenant on essaye de faire les choses autrement. On voyage plus, on joue davantage en Europe, peut-être plus qu'avant. En tout cas, pour des types comme moi, maintenant c'est ça l'alternative. C'est je pense qu'il faut se montrer partout. Il faut jouer avec plein de jeunes musiciens, plein de nouveaux projets, faire des trucs comme ça. Ouais. C'est ça qui me motive, moi.
Enfin, en l'occurrence, pour revenir au Bilboquet, donc une belle aventure avec Philippe Combel et Luigi Trussardi. Vous jouez quoi alors à cette époque? Joue-nous des morceaux un peu de cette époque-là, remets-moi. Moi, j'adorais cette ambiance parce que quand on arrivait au Bilboquet, on se mettait au bar, généralement, et on se faisait jeter par les serveurs parce qu'on n'avait rien à y faire. Ensuite, on essayait de s'asseoir et puis on se faisait jeter aussi. Donc, c'était très très difficile de voir des concerts là-bas quand on était musicien.
Par rapport à cette époque-là, moi, ce que je peux dire, c'est que Luigi m'a appris beaucoup de thèmes. C'était quelqu'un qui me regardait souvent avec ses grosses lunettes derrière sa contrebasse, tu sais, puis au Bilboquet, t'étais en bas, et puis tu regardais le bassiste qui était là, à l'endroit où tu te trouves, c'est-à-dire donc à la droite du piano, puis il était un peu en hauteur puis tu le regardais comme ça. Donc si tu faisais un mauvais accord, tu le savais tout de suite. Donc, et j'ai passé
Il faisait quoi comme tête, Luigi, quand tu faisais un mauvais accord?
Il faisait...
Ouais, d'accord. Ouais.
Comme ça.
Il soulevait les sourcils.
Les auditeurs devinons.
C'était pas méchant, comme tête.
Non, c'était gentil, mais
attention. Tu savais que t'avais mis le truc à côté, quoi.
Et il s'époumonait, il me disait do dièse, fa mineur, si bémol septième et tout ça pendant toute la soirée. Et il aimait beaucoup des thèmes comme, par exemple, ce thème qui est rarement joué.
Thank you.
C'est quoi ce thème,
Olivier? Ah, c'est un thème qui s'appelle Gal in Calico, qui est chanté des fois. On peut trouver une version chantée par Bob Doro, mais surtout Luigi adorait ce thème parce que Luigi était un fou de Pettiford. Et c'est un thème que joue Miles dans le seul disque en quartet de Miles à l'époque, Red Garland, avec Philly Joe et Oscar Pettiford. Et Ahmad Jamal le joue aussi.
J'ai l'impression qu'il y a un son qui émane de cette époque, en termes de rythmique, en termes de jeu, en termes de piano. Quoi. C'est un truc qu'on... Quand tu me parlais de ce qui a changé, de la possibilité de pouvoir faire pareil, etc., le problème, c'est que les gens ne jouent plus tout à fait de cette façon-là.
Bien sûr. Bien sûr.
Il y a un rapport au swing.
Tu me tends une perche, parce que justement, c'est un des trucs qui me passionne vraiment, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a foutu le camp. En même temps, il y a plein de choses géniales qui sont arrivées depuis.
Ouais.
Mais qu'est-ce qui a foutu le camp ? Il y avait un article très intéressant, enfin que pour ma part, j'ai trouvé très intéressant grâce à Internet. On voit circuler plein de trucs. Il y avait un article de Branford Marsalis, je ne sais pas si tu l'as lu, dans le Seattle Times, où on lui demandait en gros qu'est-ce qui clochait selon lui. L'article s'appelle « The Problem with Jazz ». Tout de suite, ça m'intéresse, ça m'interpelle, toi.
Ça commence bien.
Bah oui, non, mais je suis pas là du tout, j'ai pas envie, parce qu'en plus, je te dis, j'adore jouer avec de jeunes musiciens, il y a des tas de trucs qui m'intéressent, ce que font les jeunes maintenant, pour moi, c'est une leçon, quoi. Comment ils arrivent à s'en sortir, justement. Ce qui est un petit peu disparu, c'est ce que dit Marsalis, enfin Branford Marsalis, c'est ce rapport à la mélodie qui est vachement important, c'est de savoir vraiment développer autour d'une mélodie, c'est ce rapport au blues. Par exemple, si tu écoutes Miles, Wayne Shorter, Hancock, Joe Anderson, enfin tous nos grands héros, tous les gens auxquels on se réfère, c'est tout le temps là dans leur musique. Or, maintenant, je pense que ce rapport au blues, ce rapport au swing, à la pulsation, ce rapport à ce vocabulaire est peut-être devenu un peu du comment dirais-je, comme de la muséographie. C'est plus vécu de l'intérieur. Et quand je jouais, moi, par exemple, avec des types comme Luigi ou Lolo Bellonzi, qui avaient vraiment connu ça à l'époque où c'était en gestation et à l'époque où ça se créait, et moi-même, plus tard, j'ai connu le jazz à l'époque où le free jazz se créait en réaction à ça, ouais. Et après la fusion avec des éléments électriques et tout ça, il y avait une vraie histoire dans ce mouvement-là. Et maintenant, je dirais, encore une fois, je suis pas nostalgique, mais maintenant, j'ai du mal à suivre où va cette histoire.
Il y a aussi, j'ai l'impression, Olivier Huttman, une époque où le jazz, j'ai l'impression, était intégré au paysage. C'est le sentiment que ça me donne quand je t'écoute jouer là, ce morceau, ce standard, et puis quand on parle du Bilboquet ou de la Villa, c'est-à-dire que ça faisait partie vraiment de... Vous faisiez partie des murs, quoi. Au-delà du fait d'aller dans une simple boîte de jazz, on allait boire un verre au Bilboquet, et il y avait un orchestre de jazz, et ça allait de soi que le pianiste... joue les standards, il les joue bien, et que tout le monde improvise bien, et il y avait une espèce d'hygiène, en fait, quoi.
Oui, absolument. Moi, je me souviens qu'il y avait des endroits où on allait... C'est comme ça que j'ai connu Alain Jean-Marie, ou que j'ai connu Bernard Maury. Il y avait un endroit qui s'appelait le Sing Sing, il y avait le Chat qui pêche, il y avait des... Enfin bon, le Chat qui pêche, j'ai pas trop connu, mais le Sing Sing, c'était des endroits où les gens... j'ai oublié le nom de cet endroit où il y avait des disques.
Birdland.
Pardon ?
Au Birdland, là, ouais, l'angle de la rue qui a des cas.
En face de chez Castel, ouais. Oui. D'aller dans un endroit pour écouter des disques.
Ouais, à la fin, le mec, il me disait, non, mais laisse tomber, il n'y a plus que des rugbyman, maintenant, il faut qu'on mette MTV, quoi. Et là, j'ai senti que le truc était cuit, quoi.
Ça faisait partie, en fait, c'était une culture qui était, bon, plus, c'était certainement plus étudiant, dans le milieu étudiant, je dirais, que dans le milieu de la France agricole, que voudrait, par exemple, dans le film de Corneau, là où tu te dis, tiens, c'est curieux, au Mans, parce qu'il y avait une base militaire américaine à cette époque-là. Ça, c'est des épiphénomènes. Mais dans le milieu étudiant, il y avait vraiment, il y avait une culture de ça. On sortait, on allait écouter du jazz, oui, absolument, oui.
On parle de la musique de film ou on parle de la villa?
On peut parler des deux si tu veux.
C'est à peu près la même époque.
La musique de film, j'ai commencé à en faire dans les années 80 à travers des films institutionnels que j'ai fait en pagaille. J'en ai fait énormément. Il y avait à cette époque-là des gros budgets pour faire du film institutionnel et c'était comme ça que j'ai fait mes armes en faisant dans tous les styles. Après, j'ai évolué dans le domaine de la musique plus proprement de films, cinéma et de musique de télévision, mais j'ai vraiment commencé dans un milieu dans un style de film qui a un petit peu disparu, parce que maintenant, ça paraîtrait complètement délirant d'avoir un budget de 450 000 euros pour faire un film industriel, quoi, par exemple. Ouais. Parce qu'on communique autrement.
Les gens avec qui tu as travaillé dans le cinéma?
Ouais, j'ai travaillé pour j'ai pas travaillé avec des réalisateurs qui sont nécessairement hyper connus, mais j'ai travaillé pour des producteurs qui sont connus comme Serge Moati, Bertrand Tavernier, en téléfilm, Jean-Louis Livy, qui est un gros producteur de cinéma, Antoine de Clermont-Tonnerre. Je n'ai pas eu encore mon Luc Besson comme Eric Serra, mais je ne désespère pas que ça vienne.
Tu veux nous jouer un morceau que tu jouais à cette époque? Là, on est quoi? On est au milieu des années 80, quoi, c'est ça?
Milieu des années 80.
Fin 80, quoi, ouais.
Écoute, je peux te jouer un morceau, si tu veux, un morceau d'un pianiste que j'aime énormément, qui s'appelle George Cables, qui fait partie un peu de ces pianistes méconnus, de ces seconds couteaux, mais ouais, qui jouent terrible, comme Kirk Lightsey ou des gens comme ça. C'est un morceau qui s'appelle « I Told You So ».
C'est super joli comme morceau.
C'est un morceau que jouait Dexter Gordon avec George Cables.
J'ai l'impression que c'est une musique qui est un peu entre deux époques.
Ah
qui
n'est
pas vraiment bebop et en même temps pas vraiment...
C'est un peu mon époque, quoi. C'est-à-dire justement, c'est une époque charnière.
Justement, je voulais en parler, la différence, ouais. Justement. C'est tout ce que j'ai l'impression que tu mets du blues un peu...
Un peu partout.
Ouais. Et ça me plaît.